Vous écoutez RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée sur l'humiliation du Paris Saint-Germain hier soir. La très belle victoire tout à l'heure des Rennais, 3 buts à 1 face à Arsenal. C'était en huitième de finale aller de la Ligue Europa. En déplacement dans le sud de la France, le président Macron, dans le cadre de ses échanges en public, a une nouvelle fois défendu les méthodes des forces de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes. Et puis le grand dossier du soir, bien entendu, sera consacré à ce séisme dans l'église avec la condamnation pour son silence à 6 mois de prison avec sursis du cardinal Barbarin qui, dans la foulée, a annoncé son intention de remettre sa démission au pape François. On en reparlera avec nos invités dans quelques instants de RTL Grand Soir. La météo, toujours très instable cette nuit comme demain. Et n'oubliez pas vos rendez-vous habituels, 22h20, magazine de l'écho, avec des taux toujours très bas, très attractifs dans le secteur immobilier, avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous, plus que jamais. Vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Commence par un petit sourire. Oui, parce qu'après la désillusion hier, pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, les supporters du football français, la défaite, évidemment l'élimination face à Manchester United. Ce soir, on retrouve un tout petit peu le sourire dans le monde du ballon rond. Grâce à vous, Philippe Audouin et surtout René, qui ont bien suggéré ce premier acte de la Ligue Europa en huitième de finale ce soir face à Arsenal. Victoire 3 buts à 1.
Et oui, une soirée absolument inoubliable pour les Rennais, Christophe, avec un stade vraiment à l'unisson de son équipe, un stade rennais qui avait pourtant mal commencé le match, qui a été mené rapidement 1-0, et puis juste avant la pause un tournant du match avec l'expulsion d'un défenseur d'Arsenal, le coup franc qui suit qui est transformé par Bourigeaud, un partout, puis alors la deuxième mi-temps à 11-10, absolument magnifique des Rennais. Et à l'issue de cette rencontre, tous les acteurs ont bien insisté sur l'ambiance mais jamais vue ici à Rennes. C'est la victoire surprenante, 3 buts à 1 à l'arrivée d'une équipe qui n'est pas habituée à être sur le devant de la scène et qui était même plutôt habituée à être réputée pour une équipe de loser entre guillemets. Et avant le match retour dans 8 jours à Arsenal, tout le monde ici se prend à rêver désormais.
Oui, ou pas trop vite hein.
Tout le monde se prend à rêver d'une qualification. Figurez-vous qu'Atem Ben Arfa a dit on est même favori.
Bien, Atem Ben Arfa qui avant évoluait évidemment au Paris Saint-Germain sous les ordres de l'entraîneur d'Arsenal aujourd'hui. Alors ces Parisiens, eux, les autres, ceux qui ont perdu, eh bien ils sont restés à Paris et surtout à l'abri des regards toute la journée. 3 jours de coupure tout de même avant de reprendre dimanche l'entraînement et le retour à la compétition au quotidien. Ce sera un match en retard de Ligue 1 à Dijon mardi. On parlera évidemment de cette désillusion tout à l'heure de ce club peut-être trop ambitieux. Dans 10 minutes maintenant avec l'un de nos grands invités ce soir, ancien grand joueur bien sûr du Paris Saint-Germain, David Ginola.
RTL Grand Soir
avec Christophe Paco.
Un silence coupable. Le cardinal Barbarin, pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels dans l'une de ses paroisses, a écopé ce matin de 6 mois de prison avec sursis. Dès la mi-journée, il a annoncé sa démission, que doit encore valider son plus haut supérieur hiérarchique, le pape François. Alors Frédéric Perruche, j'avais tout suivi de ce procès pour RTL maintenant depuis son ouverture. La connaissance des faits, des agissements du père prélat, eh bien on fait que le cardinal Barbarin aujourd'hui est arrivé à cette décision, cette démission et ses 6 mois de prison avec sursis.
Exactement, le cardinal savait et il n'a rien dit. Voilà en quelques mots les motivations développées par le tribunal. Il savait depuis des années, très précisément dès l'été 2014, les horreurs commises par Bernard Prenat sur Alexandre Aizé et bien d'autres jeunes scouts dans les années 80, début des années 90. Dans ces conditions, estime la présidente, il aurait dû, en même temps qu'il signalait les agissements coupables de ce prêtre au Vatican, alerter la justice, ce qu'il n'a pas fait. Monseigneur Barbarin a voulu éviter le scandale public, explique encore le tribunal. Il a fait ce choix en conscience, les mots sont forts, pour préserver l'institution, l'Église. Il a préféré prendre le risque d'empêcher la découverte de très nombreuses autres victimes d'abus sexuels par la justice et d'interdire l'expression de leur douleur. Conséquence, 6 mois de prison avec sursis et coup de tonnerre à la barre.
Et coup de tonnerre suivi de l'intention des avocats Frédéric du Primat des Gaules de faire appel. Une riposte tout de même qui n'est pas sans danger.
Oui, mais les avocats du cardinal n'avaient guère le choix. Ils ne partagent évidemment pas les motivations du tribunal. Mais ce n'est plus l'essentiel, car d'ici là, le pape pourra accepter ou pas la démission de l'archevêque de Lyon. C'est sa deuxième offre de démission depuis 3 ans. Donc il pourrait bien comparaître comme un simple citoyen lors de ce procès en appel. Audiencé probablement l'an prochain, la cour réexaminera les faits et décidera de confirmer cette peine, de l'alourdir, c'est possible, ou de relaxer Philippe Barbard.
Merci pour toutes ces explications, Frédéric Perruche du bureau de Lyon d'RTL. Du côté de l'accusation, notamment François Deveau, le cofondateur de La Parole Libérée, qui était invité ce soir dans notre édition de 18h aux côtés de Vincent Parisot. Bien sûr, le soulagement est là, presque comme un aboutissement.
On aura dépensé beaucoup d'énergie, on aura mis en péril beaucoup de nos équilibres pour arriver à une décision aussi évidente que celle-ci, qui n'avait nullement besoin du positionnement de la justice pour que le cardinal Barbarin démissionne. Mmh. D'ailleurs, on ne peut pas considérer qu'il prend ses responsabilités, il est contraint de les prendre, mmh. C'est pas tout à fait pareil. Et ce qui est en train de changer, c'est pas l'Église, c'est le monde, c'est l'humanité qui est en train de changer. C'est le regard qu'on pose sur les agissements de ces hommes-là et c'est les interrogations qu'on se pose sur l'incohérence en fait, qu'il y a entre les valeurs prônées et la réalité de ce qu'on découvre. Je crois que l'Église est effectivement remise au centre du village et on demande à celle-ci de prendre des positions un peu plus claires que ce qu'elle a pu prendre jusqu'à maintenant, à commencer par le pape.
Oui, François Deveau, La Parole Libérée dans RTL, soir avec Vincent Parisot. Prochaine étape justement, l'attitude, la décision à venir du pape François d'accepter ou non la démission d'un cardinal qui l'apprécie, on le sait. Le spécialiste du Vatican, Bernard Lecomte, sera notre invité dans 5 minutes, dans 3 minutes pour comprendre tout à l'heure. Et puis 7 personnes soupçonnées de viol et d'attouchement sexuel sur une fratrie de 3 enfants de leur entourage en Isère ont été mises en examen, on vient de l'apprendre ce soir. Et puis on vient de l'apprendre également à l'instant, les 2 anciens policiers de la brigade de recherche et d'intervention condamnés pour viol dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres ont été libérés ce soir. Ils avaient été condamnés fin janvier à 7 ans de prison pour le viol d'une touriste canadienne en 2014. Les 2 policiers sont libres, mais placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact entre eux comme avec leurs anciens collègues. Enfin, le tueur du musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, a été reconnu coupable ce soir, coupable des assassinats à caractère terroriste. Il y en avait 4, c'était le 24 mai 2014 dans la capitale belge. Son co-accusé, un délinquant marseillais, était jugé lui aussi pour avoir fourni les armes, a été reconnu co-auteur de la tuerie. Les 2 hommes niaient les faits. Leur peine sera connue demain.
RTL Grand Soir.
22h07. Interrogé lors de son déplacement dans le Sud, aujourd'hui dans le cadre du grand débat, Emmanuel Macron, qui était venu parler d'écologie, a donc été interpellé en pleine discussion sur les méthodes, mais non pas pour l'écologie, mais sur les forces employées, les forces des forces de l'ordre, évidemment, et leurs méthodes employées face aux manifestations des Gilets jaunes.
Nous sommes dans cette salle, réunis à l'occasion du grand débat, qui n'existe que grâce à ce mouvement social, qui, alors que nous les oublions quelque peu enfermés dans cette salle, sont certainement en train de se faire réprimer à l'extérieur. Cette répression, en tant que paysanne syndiquée, m'inquiète énormément et je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, quand on voit les arrestations préventives de manifestants, qu'ils soient écologistes, gilets jaunes ou autres, ou quand des militants écologistes se retrouvent en garde à vue et devant la justice pour avoir décroché votre portrait, quand est-ce que cette répression va cesser ?
Et la réponse n'a pas tardé, celle du président, bien sûr, Emmanuel Macron.
Le fait générateur, c'est quoi ? C'est une violence inacceptable qu'il y a eu dans notre pays à certains endroits, qui s'est installée. Je ne peux pas la questionner. Et je ne peux pas vous laisser dire, alors qu'il y a d'autres pays où il y a de la répression, qui sont des régimes autoritaires où l'état de droit n'est pas respecté, la France, ça n'est pas la même chose. Mais, madame, vous êtes manifestement pas convaincue, mais moi je ferai ce distinguo et je le tiendrai. Et tant que je serai là, la liberté de manifester et l'état de droit seront préservés, mais avec la rigueur qui convient pour que l'ordre public soit respecté. Parce qu'il y a des millions de citoyens qui veulent la paix publique.
Agréez-vous les bains, Emmanuel Macron évidemment face au public dans ce grand débat avec nos envoyés spéciaux Dominique Tenza et Étienne Baudu. Plus de 3000 personnes attachées au bon fonctionnement des hôpitaux ont répondu à un questionnaire sur leurs conditions de travail. Au vu du constat, ils tirent ce soir la sonnette d'alarme au regard de semaines par exemple de plus de 50 heures pour la moitié du personnel ou encore dans un cas sur deux également, un médecin malade aujourd'hui ne pose pas d'arrêt maladie. La grève du zèle des douaniers français qui réclament plus de moyens en effectif notamment quelques jours du Brexit commence à prendre prendre de l'ampleur. Les files de camions s'allongent de plus en plus. Les Eurostars qui sont touchés ont eux des retards qui sont parfois supérieurs quand même à la moyenne à 2 heures. Et même des perturbations sont en cours à l'aéroport de Nice où les douaniers fouillent toutes les valises sans exception pour un départ vers Londres. Les Américains, sur la base de nouveaux clichés, se sont aperçus, eux, que le site de lancement de fusées que la Corée du Nord avait commencé à démanteler est bien à nouveau opérationnel après avoir été rapidement reconstruit par Pyongyang. Le président des États-Unis, Donald Trump, avait pourtant prévenu qu'il serait très, très déçu, je cite, par Kim Jong-un en cas de reconstruction de cette base. Et puis ce matin, événement sur la première radio de France dans Laissez-vous tenter avec comme invité de prestige pour le tout dernier film de Bertrand Blier qui s'appelle Convoi exceptionnel. Eh bien, deux monstres sacrés étaient présents côte à côte face à Yves Calvier et le service de Laissez-vous tenter. J'ai nommé Gérard Depardieu et Christian Clavier. Ces deux derniers sont revenus sur le succès de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec en patron de cette drôle de famille, vous le savez, Christian Clavier.
Je suis jamais blasé de faire des entrées ou que les gens soient contents d'aller voir les films. C'est très difficile de faire que les films fonctionnent, c'est très difficile de les financer. Dans Le Bon Dieu, j'ai une liberté incroyable avec ce personnage. Le film de Bertrand est différent, mais c'est un film, évidemment, d'un grand auteur, d'un grand écrivain, mais c'est un film consommable. Voilà, parce que moi, je déteste les films non consommables.
Moi, je suis très heureux que Christian ait fait ces choses. Bon, maintenant, c'est pas 6 millions d'entrées, on s'en fout, oui. C'est vrai. Mais il a tellement été décrié que là, je suis vraiment très heureux parce que là, il semble qu'il est aimé. Et en plus, il représente très bien, comme de Funès, ce qu'est le français. Un ronchon, un raciste, un petit roquet, un béret qui dénonce la délation. Et là, il n'est pas comme ça du tout, c'est un homme exquis, extraordinaire.
Gérard Depardieu, Christian Clavier, deux géants du cinéma, ce matin sur RTL. Interview, échange évidemment, à retrouver en intégralité sur le site de la première radio de France, rtl.fr. La météo, c'est avec vous, Patricia Charbonnet, ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. La météo reste très instable en cette fin de semaine avec une nouvelle perturbation qui aborde ce soir la côte atlantique par le Poitou-Charentes avec un ciel de plus en plus nuageux et des averses. Et cette perturbation va progresser vers l'est et le sud-ouest demain dans la journée en perdant un petit peu de son activité. Mais le temps restera très nuageux entre le nord-est, le massif central et les Pyrénées avec quelques averses et même de la neige sur l'ensemble des massifs au-dessus de 1000 mètres. Sur le nord-ouest du pays, ciel toujours chaotique avec de nombreuses averses. Seul le quart sud-est profitera demain encore d'un temps ensoleillé entre le sud des Alpes et la Méditerranée avec des températures fraîches en matinée, des températures en baisse. 1 degré à Alençon, 4 degrés à Brest, 9 à Biarritz et de 9 à 19 degrés dans l'après-midi. 9 degrés à Aurillac, 12 à Lille, 13 à Paris, 15 à Grenoble et 19 degrés de maximum à Nice.
Merci à vous Patricia Charbonnier.
RTL, sur la route du grand débat.
Nouvelle étape pour nos reporters qui sillonnent la France, vous le savez pour vous, juste avant la conclusion de ces grands débats, pour illustrer bien sûr les problématiques qui remontent souvent sur notre territoire et pour présenter aussi des initiatives pour tenter de remédier à ces soucis. Aujourd'hui, on va parler de transport collectif dans le Cantal, où nombre de dessertes, on le sait, de trains par exemple, s'ennuisent. Alors en immersion ce soir pour la première radio de France, Sinamir.
Bonjour monsieur, j'ai un petit sujet sur la mobilité dans le Cantal.
Vous avez du boulot?
Pourquoi?
C'est le désert, non? Si vous venez ici, c'est qu'il y avait un sujet, non?
Depuis la fermeture du guichet de la petite gare blanche à l'ardoise noire de Saint-Flour, Alain, chauffeur de car depuis 30 ans sur ces routes sinueuses, est devenu l'un des rares relais pour les voyageurs du coin.
La dernière solution, et encore, on ne peut pas donner les billets jusqu'à Paris. Le maximum qu'on puisse faire, c'est Clermont. La solution pour la SNCF, tout de suite, c'est Internet. Tout le monde n'a pas une carte bleue. Tout le monde n'a pas Internet, surtout par le pays, là. Donc les gens vont être contents.
La solution, c'est quoi? C'est le car et le covoiturage?
Sûrement, ouais. Il faut demander ça aux gens.
Allez, merci de m'accueillir. Je vais vous faire patienter.
Solène.
Combien de temps de trajet tous les jours?
45 minutes.
Vous êtes une rareté. Il n'y a que 2% des salariés du Cantal qui disent prendre les transports en commun.
Ah oui, les trois quarts des personnes qui sont là, oui, c'est du transport scolaire. Mais bon, après, il faut réfléchir en termes de coûts aussi.
Ravi de vous avoir rencontré.
Très bien.
Oui, bonjour. Vous m'avez envoyé un message. Ben, malheureusement, je n'ai pas eu de covoitureur depuis l'année dernière.
Effectivement, malgré le tout voiture qui s'impose dans le département, les chiffres du covoiturage ne sont pas bons. Pierre Jarlier, le maire radical de Saint-Flour, veut donc développer sa plateforme.
Mais on va l'organiser de telle sorte que les personnes qui sont habituées à Internet pourront le faire depuis chez elles.
Train, bus, covoiturage, tout sera regroupé à la demande via la communauté de 53 communes qu'il préside. réside.
Mais ceux qui n'ont pas la connaissance nécessaire pourra le faire par le biais soit du téléphone, soit de la présence directe d'une personne qui sera à l'accueil dans la maison de service.
La SNCF réfléchit aussi à trouver de nouveaux relais de proximité. Les offices de tourisme de certaines petites communes du département permettent déjà, par exemple, d'imprimer ou d'acheter un billet de train.
C'est Namir sur la route du Grand Débat. À demain, Sina.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
3 minutes pour comprendre.
On va revenir sur ce silence coupable du cardinal Barbarin, Philippe Barbarin, condamné pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels dans l'une de ses paroisses à 6 mois de prison avec sursis. Dès l'annonce, à la mi-journée, il a annoncé sa démission.
Je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Alors, est-ce aussi simple avec nous, un journaliste et spécialiste, évidemment, du Vatican et du monde religieux, c'est Bernard Lecomte que nous avons le plaisir à retrouver ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On démissionne si facilement, on va voir le pape et tout s'arrange ou se solutionne ?
Alors, tout s'arrange, c'est un peu excessif. Non, il est vrai que c'est la procédure normale. Si, par exemple, le Mgr Barbarin avait 75 ans, il le ferait tout simplement pour raison de limite d'âge. Il irait voir le pape et le pape le déchargerait probablement de sa fonction. Là, évidemment, on est dans le drame, on est dans une décision de justice. Et il va aller voir le pape. Je n'imagine pas que le pape refuse cette démission.
Oui, parce qu'il y a 2 cardinaux, il n'y a pas très longtemps, qui étaient déjà inculpés, qui ont été radiés, donc défroqués, comme on dit dans le langage religieux.
Oui, mais alors ce qui est très important, c'est de bien comprendre que les 2 autres cardinaux, ça correspondait à la période qu'on vient de traverser dans l'Église. C'est-à-dire qu'ils étaient coupables d'abus sexuels. L'un, abus sexuel sur enfant, l'autre, abus sexuel sur adolescents et enfants. Là, on change de période. Le cardinal Barbarin est condamné pour non-dénonciation de crime. Lui-même n'est pas criminel, lui-même n'est pas pédophile, il faut être clair là-dessus.
Il faut être très clair.
Et donc, on change de période. L'Église, maintenant, n'en est plus à régler le problème de la pédophilie dans ses séminaires, dans ses couvents et dans ses églises. L'Église en est maintenant à régler un problème beaucoup plus important, beaucoup plus considérable, qui est le silence de l'Église sur tous ces sujets-là.
Et le pape, aujourd'hui, qui est, on le sait, hein, assez proche du cardinal Philippe Barbarin, se dirait, comme vous l'avez dit, comme il n'y a pas eu d'acte de sa part, il y a eu ce terrible Dieu merci, hein, il y avait prescription de sa part.
Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.
Voilà, Dieu merci,
ça, c'est le
film. Pardon.
Titre du film.
Voilà, grâce à Dieu, l'effet était prescrit. Vous ne pensez pas que le pape, aujourd'hui, aura encore peut-être envie, entre guillemets, de sauver le cardinal Barbarin ?
Peut-être qu'il en aura envie, mais ça serait en contradiction avec ce qu'il a dit il y a une dizaine de jours lors de cette formidable rencontre de 190 représentants de conférences épiscopales à Rome, où le pape a été extrêmement vindicatif en demandant aux uns et aux autres du concret. Mmh. Alors là, si c'est pas du concret, il faut qu'on m'explique.
Oui, aucun abus ne doit être couvert, hein, c'est bien clair, notamment dans ses déclarations, pape François.
Hein. Oui, et comprenez bien que ça dépasse largement le cas de Barbarin et le cas même de la pédophilie. L'Église entre au bout de 2000 ans dans une période où nous tous, toutes les institutions et tous les individus entrons dans une période de transparence. La société de demain est une société de transparence. Donc on ne peut plus tout simplement, quelle que soit l'institution et quelles qu'en soient les raisons, on ne peut plus cacher, passer dans l'ombre, faire le silence et jouer l'omerta. Tout ça, c'est terminé. Le grand pari de l'Église de demain, et là, le pape, il est responsable, c'est justement de préparer l'Église à cette nouvelle société-là.
Tolérance zéro.
Tolérance zéro et transparence absolue. Et qu'on le veuille ou non, là encore, la transparence absolue, c'est un des critères de la société de demain. C'est comme ça.
Et on rappelle que c'est pour les associations, évidemment, victimes des agissements du père prélat, c'est une victoire aussi pour la protection de l'enfant. Merci à vous d'avoir été avec nous, Bernard Lecomte, journaliste et spécialiste du Vatican. Merci d'avoir témoigné ce soir sur la Première de France.
RTL Grand Soir, la minute du Mag Écho.
La La Minute Conso, c'est avec vous ce soir, Martial Youb, bonsoir.
Bonsoir.
Minute Conso consacrée au prix de l'immobilier. Oui, visiblement ça baisse encore, on pensait qu'on ne pouvait pas, on ne pourrait jamais arriver au plus bas niveau, Martial.
Eh bien oui, ça continue à baisser, en clair, vous pouvez espérer obtenir en moyenne 1,75% sur 25 ans en ce moment. Cet emprunt, sur une durée très longue, représente maintenant plus d'un tiers des contrats. On approche du printemps, qui est la période la plus propice pour les ventes de biens immobiliers. C'est le moment où les banques se font la guerre pour récupérer des clients qui vont transférer tous leurs comptes chez elles. Si vous êtes un dossier très attractif, comme on dit, avec une situation solide, CDI, beau salaire, la quarantaine dans une ville recherchée, vous pouvez même espérer moins de 1% pour des prêts de moins de 20 ans. Pour vous donner une idée, il y a 5 ans, si vous empruntiez 450 000 euros, vous remboursiez 2 518 euros par mois. Aujourd'hui, vous remboursez 350 euros de moins.
Alors, est-ce qu'on est sûr qu'on va y gagner vraiment car les prix, eux, d'un autre côté, continuent évidemment de monter.
Eh bien oui, globalement, la baisse des taux compense la hausse du mètre carré, même si vous avez aussi des endroits en France où les prix baissent. Mais disons que pour la même mensualité de 2 500 euros qu'il y a 5 ans, vous achetez un tout petit peu plus grand à Lille ou à Toulouse. À Paris, c'est la même surface. En revanche, à Nantes ou à Bordeaux, où l'immobilier a flambé ces dernières années, eh bien, malgré les taux bas, vous achèterez un appartement un peu plus petit.
La question bonus pour vous, le chef du service économique et social, Martial Youb, pour discuter un contrat qu'on a déjà, c'est une différence d'un demi-point, c'est ça à peu près ou
pour
pas
renégocier un contrat qu'on a déjà, oui, bah oui, on s'appuie sur ces chiffres-là et on fait jouer la concurrence.
Très bien, merci beaucoup Martial Youb.
RTL Grand Soir, le mag de l'écho.
RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'Écho. C'est avec vous, Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir.
Bonsoir Christophe. Mon invité ce soir est Hugo Bazin, le cofondateur de Tic Tac Trip. Bonsoir.
J'adore. Bonsoir et merci pour l'accueil.
Bon, qu'est-ce que fait Tic Tac Trip ?
On développe l'intermodalité terrestre. Oula. Mais derrière ces termes, c'est la comparaison et la combinaison de tout ce qui est bus, train, covoiturage.
Ah, génial.
Donc en gros, on va vous donner le meilleur prix et on va améliorer notamment les dessertes des zones qui sont isolées. Et tout simplement créer des lignes directes. Donc par exemple, si cet hiver, vous avez besoin de vous rendre aux stations de ski, ce que fait la plupart des gens,
c'est prendre le train. On connaît les prix, c'est cher déjà.
Exactement. Oui. Mais nous, on arrive à optimiser ça en faisant une combinaison avec un train, puis une navette que vous ne connaissez pas forcément pour aller directement à la station.
Bon, mais là, prochainement, je dois faire Évian-Quimper. Je passe par Tic Tac Trip et vous me trouvez Évian-Quimper.
C'est compliqué, exact. Ouais.
En modulant tous les moyens de transport existants.
Voilà, en fonction de ce que vous préférez. Donc ça va être optimiser le temps de trajet, le prix ou tout simplement la flexibilité générale du trajet.
Mais l'exemple est bon par rapport au ski, par exemple, Jean-Baptiste, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire un Paris-Savoie ou Haute-Savoie,
exactement,
les prix des trains sont très très chers dans une période de vacances scolaires. Les navettes, il faut en avoir à disposition. C'est pas si simple de les réserver à l'avance. Et après, quoi, il y a mon forfait de ski, non ?
On reste vraiment sur la mobilité.
Sachant qu'aujourd'hui, vous donnez l'information, mais l'idée, évidemment, de demain, c'est qu'on n'ait plus qu'un seul billet et on ne paye qu'une seule fois auprès d'un seul interlocuteur, vous.
Exactement. Dans un premier temps, le travail, en fait, ça a été d'agréger un maximum d'acteurs, de retravailler les données, donc de les combiner pour créer en fait ces trajets. Dans une seconde étape, ça va être d'intégrer le paiement pour que vous puissiez en fait payer en une seule fois, qu'importe si votre trajet est combiné, donc présente différents moyens de transport.
Avec votre application Tic Tac Trip, ça me coûte combien pour faire mon petit voyage au ski ?
Alors, on ne compte pas plus cher que n'importe quel autre transporteur, puisque c'est la compagnie qui nous paye, ce qui fait qu'en fait, on ne prend aucune commission auprès de l'utilisateur.
C'est-à-dire
qu'à partir du moment où vous achetez, par exemple, un trajet qui est composé d'un train et d'une navette, en fait, vous payez le prix du trajet brut, exactement, et c'est la compagnie qui va nous rémunérer. Donc vous ne payez rien à Tic Tac Trip.
Est-ce qu'il y a des voyages insolites qui vous sont commandés ?
Ah oui, il y en a beaucoup. Ça va être tout ce qui est horizontal en France. Donc on va avoir du Nancy-Nantes.
Transversal plutôt.
Exactement.
Horizontal et transversal.
Et horizontal.
Mots croisés.
Exactement. Parce qu'il y a quand même des zones qui sont très très mal desservies aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur le site de la SNCF par exemple, ce qu'on vous propose pour un Bordeaux-Lyon, ça va être de faire un Bordeaux-Paris, Paris-Lyon.
Ça, c'est terrifiant.
Exactement.
Ça, c'est terrifiant.
Et notre but, nous, c'est de désenclaver en gros ces territoires qui sont mal reliés les uns aux autres. Et c'est pour ça.
Et vous y arrivez ?
Exactement. On y arrive.
Vous arrivez à me faire un Bordeaux-Nice plus facilement qu'un Nice-Paris-Bordeaux ?
Voilà, en combinant du coup des moyens de transport qui sont différents.
Le gros mot habituel, c'est intelligence artificielle. Tout le monde met de l'intelligence artificielle partout. Chez vous, il y a un peu d'IA ?
Exactement. Bah, on a créé en fait nos propres algorithmes de combinaison. Donc oui, on peut considérer qu'il y a de l'IA, qui est différente du robot, mais qui est déjà présente.
L'avenir de Tic Tac Trip, c'est de briser les frontières et de faire la même chose entre Paris, studio de RTL et Bratislava.
Oui, à terme, en gros, c'est de s'étendre. Même si on dessert déjà 4600 villes en Europe, c'est vraiment d'étendre en agrégeant un maximum de transporteurs régionaux à une échelle européenne.
Alors, on sait que Blablacar, qui ressemble un peu à Tic-Tac Trip, est une start-up française qui a conquis l'Europe et le monde. Est-ce que vous ambitionnez de devenir le Blablacar des transports, trains, bus et autres?
Ah, ce serait un rêve. Le chemin est long. Ouais. Il va être semé d'embûches, mais très clairement, aujourd'hui, on a déjà créé quelque chose d'unique. Mm-hmm. Et oui, on aimerait bien devenir la plateforme de référence sur tout ce qui est comparaison et réservation de moyens de transport.
On va imaginer. Je suis assez débrouillard habituellement. Je trouve des petits billets. Je me débrouille tout seul sur ma plateforme. Franchement, d'aller chez vous, je vais gagner un peu plus d'argent encore ou pas?
Vous allez en économiser.
Ou c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voyager, qui se dit tiens, je vais prendre mon petit Bordeaux-Paris et je vais vous faire confiance, je vais payer moins cher. Et combien en moins? 10%, 20%?
Bah alors, en fait, ça va dépendre. Je ne veux pas vous donner de moyenne générale. Ça va dépendre du trajet. Mais on a des trajets qui sont jusqu'à 70% moins chers que ce qui est proposé ailleurs.
70%?
Oui, grâce à nos combinaisons, justement. Pourquoi? Parce qu'en intégrant des transporteurs régionaux qui ne sont pas référencés ailleurs, on vous permet en fait de voyager beaucoup moins cher.
Ça se tente, non?
Ça se tente, effectivement. Hugo Bazin, cofondateur de Tic Tac Trip, était avec nous ce soir.
Merci à vous deux, messieurs.
Merci beaucoup.
Cette chronique est à retrouver sur RTL.fr avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud, bien sûr, d'EconomieMatin.fr.
Vous aimez RTL? Vous adorerez RTL.fr.
Premier site internet radio de France.
RTL, le choix du grand soir.
Le choix d'RTL Grand Soir, c'est évidemment de revenir sur cette désillusion parisienne. Pour la troisième fois, le PSG ne passe pas en Ligue des Champions au stade des quarts de finale. Il s'arrête en huitième, comme contre le Real Madrid, tout comme contre le fameux Barça, la remontada. Pour évoquer avec nous la défaite face à Manchester United hier soir, monsieur David Ginola. Bonsoir David.
Bonsoir.
Ça fait très mal, c'est quoi? C'est ridicule? C'est une faute professionnelle? On y va très fort tout de suite?
Je n'irai pas jusqu'à la faute professionnelle, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, parce qu'effectivement, je pense que le bas blesse quelque part. Tu joues contre une équipe qui est un petit peu comme tous les samedis. Alors, ce n'est pas pour manquer de respect au club français, mais bon, le Paris Saint-Germain montre tous les week-ends qu'il est supérieur à tous les clubs français. Manchester United, hier, n'était pas plus fort qu'une équipe de Ligue 1. Ils avaient des absents, 5 titulaires du match aller. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à gagner contre des équipes comme Manchester United. C'est pas possible, c'est une blague, il y a quelque chose. Il y a un problème quelque part. Certains ont soulevé le problème des investisseurs qatariens, qui sont au club depuis pas mal de temps, qui ont mis vraiment l'accent sur le fait que gagner la Ligue des Champions était une priorité. Oui, c'est une priorité, sauf que chaque année, tu ne passes pas le stade des Diamondbacks. Pas que ce soit de la prétention, je pense que c'est surtout un manque de réalisme. Si tu veux t'imposer comme un grand d'Europe, il faut qu'à un moment donné, tu le prouves sur le terrain. Au match aller, j'ai vu peut-être une des plus belles performances collectives du Paris Saint-Germain.
Parce qu'on avait du caractère.
Il n'y avait pas Neymar et il n'y avait pas Cavani. Chaque année, on se dit, Thomas Tuchel, ben, est-ce qu'il va rester? Parce que c'est, mais on revient toujours à la même chose. Unai Emery, il est venu pour gagner avec des champions, ben, il n'est pas resté. Tu peux tous les faire, hein. Tous les entraîneurs, tu peux tous les faire en parler. Ouais, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ton objectif numéro un, c'est terminé. On est au mois de mars.
Oui, tu veux dire qu'on est en vacances, là, ça y est.
Ben, tu restes mars, avril et un peu de mai. Tu restes 2 mois et demi. Dans l'esprit, tu prends, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que président ou staff ou allez, le club en général, tu prends une claque. Parce qu'à aucun moment, après cette victoire à Manchester, tu te voyais te faire éliminer.
Personne.
Surtout quand tu voyais l'équipe affichée par Solskjaer. À aucun moment. On ne va pas parler de choses, parce que le football, c'est quelque chose qui se joue, c'est quelque chose d'instinctif, et que bien évidemment, on ne va pas tirer sur l'ambulance, et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Sur une analyse globale, sans mentionner Pierre-Paul ou Jacques, c'est vrai que je crois qu'il y a dans cette équipe des manquements collectifs qui, à un moment donné, sont préjudiciables. C'est-à-dire que tu vas être très, très bon.
Collectif, hein.
Et après, tu vas être très moyen.
Franchement, David, c'est quoi? C'est une histoire de gouvernance? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, peut-être à l'Ajax, on voit que ça a toujours cette étiquette, comme à Manchester United, au Bayern ou au Real Madrid. C'est quoi? C'est une gouvernance différente? C'est faire appel à des anciens comme vous?
Ils ne veulent pas. Ils veulent faire les choses avec des étrangers. Ils ont fait venir des garçons comme, que j'adore, hein, j'attends, je ne critique pas, mais un garçon comme Patrick Kluivert, mais quelle légitimité il y a à prendre. On ne va pas parler, la légitimité aujourd'hui, elle est sur la passion, l'amour d'un club, d'un pays. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un club qui représente le football français dans son excellence et dans sa pureté. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais voir davantage
de choses qui soient représentatives du Paris Saint-Germain, ce que je ne vois pas. Oui. Le Paris Saint-Germain est un logo, est un emblème, quelque chose qui se vend dans le monde entier. Il y a des choses que je n'accepterai mais même pas.
Laquelle, par exemple, la première qui devient l'idée ?
Il y a des images qui me passent comme ça devant les yeux et que je trouve hallucinantes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, il y a des garçons qui sont en récupération, en convalescence pour parce qu'ils sont blessés et tu les vois danser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, il y a des garçons qui sont en récupération, en convalescence pour parce qu'ils sont blessés et tu les vois danser, par respect pour ton club, par respect pour tes supporters, pour respect pour ton pays. Il y a des choses que tu ne fais pas. Mais avant tout, je pense que ce qu'on a perdu fondamentalement, c'est ça. C'est cette appartenance. J'ai un devoir d'accomplissement de quelque chose, qui est quelque chose de fondamental et que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Remettre un peu de valeur en place, de valeur, mais de valeur simple. Tu comprends, des valeurs simples, pas des valeurs qui ont forcément quelque chose de truc. Aujourd'hui, on vit dans le monde très rapide des réseaux sociaux, de tout ça. Et aujourd'hui, il faut un petit peu tempérer parce qu'un club de football, ça reste une famille. Et normalement, c'est une famille. Et tu as vu, tu as eu l'exemple avec l'équipe de France l'année dernière à la Coupe du Monde. Ils ont gagné cette Coupe du Monde parce qu'à un moment donné, ils ont réalisé qu'il fallait qu'ils soient bien ensemble dans leur vie au quotidien pour être solidaires sur le terrain. Et ça, c'est bon, ça, c'est. Mais c'était criard. Ouais. C'était criard entre les matchs de poule et la progression à travers la compétition. On avait une équipe où tu te dis, mais putain, mais ils sont bien ensemble. Il n'y a que ça. Si tu es bien dans le vestiaire avec le mec qui est assis à côté de toi et tous les autres, tu vas gagner des titres. Si tu n'es pas bien avec ton voisin dans le vestiaire, tu ne gagneras rien. Parce que le mec, il ne va pas faire l'effort pour toi et toi, tu ne le feras pas pour lui.
Merci mille fois pour ce témoignage, bonne David. Bonne soirée, David Ginola. Merci beaucoup. Ciao. Ouais, on a pris du temps, hein, pardonnez-nous, on est un tout petit peu en retard ce soir, on va arriver à bientôt 22h31, mais il fallait revenir cette défaite qui fait du mal à tout le football français. Heureusement, il y a un sourire ce soir, il vient de Rennes. Les Bretons, oui, de Rennes, qui sont imposés 3-1 face à Arsenal, match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Bonsoir à vous, Caroline Dublanche.
Bonsoir, Christophe.
On parle de foot ce soir. Hein, foot.
Ben oui, je vois ça va, vous êtes remis de la défaite du
difficilement,
PSG.
Difficilement.
C'est dur, vous voulez qu'on en parle
Parlons-nous alors,
ben
je
oui.
peux
l'appeler Bien sûr. Bien sûr, Christophe.
Parce que là, au moins, oui, c'est pas qu'un club. C'est se dire, bon, c'est dommage, on n'arrivera pas à
l'année. Je comprends.
C'est une année où un club français pour aller loin, mais il nous reste un club en Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est le club qui s'appelle Lyon. Et ce club de Lyon, il va jouer quand même au Barça, on ne sait jamais, après le 0-0 du match aller, un petit nul un partout. Et peut se qualifier et puis encore Rennes donc la semaine prochaine. Ça c'est bien non ?
Bah oui, c'est parfait
voilà.
Ça.
On garde le moral, voyez.
Mais je vois, il en faudrait beaucoup pour vous loter le moral.
Hein. Oui, et puis en plus après je vous écoute. Donc c'est que du bonheur et je vais peut-être vous appeler ce soir d'ici 1h du matin
mais quand vous voulez, Christophe.
Sur le 09 ?
Oui.
69 39 10 11.
Je vous embrasse, Christophe.
Très fort.
On vous retrouve demain.
Demain,
hein.
Exceptionnellement demain soir.
Bonsoir à vous.
RTL.
On a tellement de choses à se dire.